Marc 8, verset 34, nous dit ceci. Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. » Mardi, on a commencé à nous rappeler à cette parole de Jésus, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Je parlais du renoncement. Je le disais, c'est pas un thème très très populaire, hein, même dans les milieux évangéliques. On est plutôt dans les miracles, même si Dieu fait des miracles, on est plutôt dans l'expression, la vision, même si ces choses sont... Mais ici, Jésus va dire, commence le commencement, si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien qu'il commence à renoncer à lui-même. C'est-à-dire, choisir, décider de vivre plus dans la dépendance de Dieu que dans sa propre dépendance. Plus de rechercher la volonté de Dieu que la sienne, plus d'accomplir celle de Dieu que la sienne. Et puis, il y a la suite. Il y a la suite. Jésus poursuit, il dit ensuite qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix. Peut-être que ce matin, sur votre traduction, vous avez « qu'il porte sa croix ». Se charger de sa croix ou qu'il porte sa croix. Aujourd'hui, c'est même une expression qui est dans le langage courant. « Ah, je porte ma croix ». Vous avez déjà peut-être entendu cette expression. Hein. Alors, souvent, elle est utilisée, on parlait tout à l'heure de voisinage. « Ah, j'ai un voisin qui est pénible, etc. C'est difficile au travail, le patron, les collègues, les ouvriers. Faut bien que je porte ma croix. » Ou alors, eh bien, j'ai un souci familial, ça dure des années, mais vous savez, eh bien, il faut bien porter sa croix. Je suis malade, je porte ma croix. Mais on va voir ce matin, au travers de l'exemple d'un homme qui va porter là aussi une croix, ce que signifie réellement, et puis quelle est la raison d'être de cette expression que Jésus nous rappelle ce matin, porter sa croix, qu'il se charge de sa croix. On va lire trois courts récits. Le premier dans Matthieu 27-32, vous allez les retenir presque par cœur pour voir un petit peu ce personnage s'imprimer aussi dans votre esprit. Matthieu 7-32, voilà ce qu'il est dit. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Marc 15-21 nous a dit ceci. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et puis Luc 23-26 nous dit ceci. Luc 23 et le verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Voilà trois courts récits, mais qui donnent cette image, cet épisode dans la vie de cet homme, hein, Simon de Cyrène. Voilà donc cet homme, d'origine de la ville de Cyrène en Afrique du Nord. Il est dit qu'il rentre des champs, c'est un ouvrier agricole. Est-ce que c'est un journalier? Est-ce qu'il a une exploitation? On ne sait pas. Il est père de deux enfants, de deux garçons, Alexandre et Rufus. Et même si au départ, effectivement, cette croix, c'est celle d'abord que Jésus porte, bien quelque part, elle va devenir aussi la sienne pendant quelques instants. Et à travers son exemple, ce matin, de pensées pour nous aider à comprendre cette expression de Jésus, hein, qui a été partagée à ses disciples il y a plus de 2000 ans, bien se charger de sa croix, quel est le sens de cette parole de Jésus, et puis bien sûr, également, quelle est sa valeur pour nous, qu'est-ce qu'elle implique pour nos vies. Alors, le sens, la signification de cette parole, se charger de la croix, de sa croix. première pensée, se charger de sa croix, c'est être associé au sacrifice de Jésus. Et je m'explique, hein, si aujourd'hui, pour certains, porter une croix autour du cou ou ailleurs, peu importe, ça peut être considéré comme un porte-bonheur. Ça peut porter chance, finalement, quelque part. Alors, hein, on met toutes sortes de croix, d'objets autour du cou, dans la voiture, accrochés à Saint-Christophe ou autre chose. Puis on se dit, ça peut porter bonheur, on sait jamais. Pour d'autres, peut-être, plus réfléchis, en tout cas, dans leur conscience spirituelle, on se dit, porter une croix, c'est un signe religieux. J'appartiens donc au groupe des chrétiens dans le monde. Je porte cette croix et ainsi je m'identifie à un groupe religieux. Quand on parle de croix, à l'époque de Jésus, il y a tout un autre sens, il y a toute une autre mentalité. Quand on parle de croix, de crucifié, bien sûr, on parle directement de ce terrible châtiment que les Romains infligeaient aux esclaves, aux meurtriers et aux ennemis de Rome. Ce châtiment était tellement cruel que les citoyens romains en étaient dispensés, entre guillemets. Hein, s'ils avaient commis un meurtre, un châtiment qui mérite la peine de mort, ils avaient le privilège, hein, c'était plus rapide et puis peut-être plus noble, d'être décapité. Voilà. Mais parce que le supplice de la croix, il est terrible. On parle parfois de crucifiés qui restaient dans des souffrances pendant une semaine. Et quand on parle de la croix à l'époque, c'est une horreur, c'est un scandale, c'est quelque chose qui soulève le cœur. Porter sa croix. Et pourtant, Jésus dit à tous ceux qui sont là, il y a peut-être des Romains aussi, porter sa croix, aux Juifs, porter sa croix, c'est quelque chose qui fait référence, bien sûr, au sacrifice, quelque chose qui fait référence à l'horreur du supplice. Et alors, eh bien ici, il est dit que Luc nous dit que Simon portait la croix derrière Jésus. Ce n'est pas lui le condamné. Ce n'est pas Simon de Cyrène le condamné, bien sûr, mais il est impliqué dans une partie hein, de ce protocole macabre de supporter, d'aider Jésus à monter sa croix jusqu'au lieu du Golgotha. Porter sa croix, bien, pour nous, ce matin, c'est déjà réaliser eh bien, ce sacrifice que Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Sur ce point infâme, on l'a chanté, eh bien, ce sacrifice nous concerne tous, on va dire, en général, mais chacun en particulier. Il y a deux textes hein, qu'on peut relire dans Romains 5, versets 6 à 8. Ce premier texte qui nous dit ceci, Romains 5, 6. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste ? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien ?» Il y a toujours cette image qui peut ressortir. Je pense qu'un père, une mère pourrait donner sa vie pour son enfant s'il fallait le faire. Mais l'Écriture dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Puis il y a Colossiens 2:13 qui nous rappelle également cette réalité. Nous sommes associés au sacrifice de Jésus. Colossiens 2:13-14 nous dit ceci. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Amen. Porter sa croix, pour nous, c'est d'abord réaliser que Christ, eh bien, l'a porté avant nous, il l'a porté devant nous, il l'a porté aussi pour nous et à cause de nous. Porter sa croix, ce matin, c'est s'identifier à cette réalité du sacrifice de Christ et tout à l'heure, on prendra la Sainte Cène de réaliser, eh bien oui, c'est bien à cause de mes péchés, à cause de ma vie condamnée, dissolue, Christ a agonisé sur la croix. Porter sa croix. On aurait pu chanter également ce beau chant hein, que vous connaissez. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. quel sauveur merveilleux je possède. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour les péchés de Simon Cyrène, des miens, des tiens, des nôtres. Et ce matin, porter sa croix, eh bien, c'est déjà de réaliser, d'être convaincu par le Saint-Esprit que nous sommes associés au sacrifice de Jésus. Deuxième pensée, porter sa croix, c'est être aussi associé aux souffrances de Christ. Quelqu'un a dit que Simon Cyrène a été un des seuls, voire le seul, à accompagner Jésus dans un moment de souffrance extrême. Dans une proximité particulière, on y reviendra tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'à Gethsémané, Jésus demande à ses propres disciples de rester avec lui pendant quelque temps. Et puis on sait ce qui va se passer, ils vont s'endormir. Hein, la Bible nous dit de tristesse. Ils n'ont pu veiller une heure. Et quelqu'un fait cette remarque, eh bien que Simon de Cyrène, pendant quelques instants, quelques longs moments pour Jésus, eh bien va être celui qui va être au plus près, va accompagner Jésus dans ses souffrances. Rappelons-nous le contexte, Jésus est arrêté le jeudi soir à Gethsémané et on le conduit directement ensuite, bien sûr, devant les instances religieuses, en pleine nuit. Ce sont les questions, ensuite c'est chez Hérode, chez Pilate, Jésus ne dort pas. Et puis le vendredi matin, il est flagellé, on va imprimer sur son crâne cette terrible couronne d'épines, on va se moquer de lui, et puis bien, on va le conduire à Golgotha, chargé de sa croix ou d'une partie de la croix, peu importe, pour que eh bien le supplicié participe encore d'une manière plus cruelle à son sacrifice. Je veux dire, les Romains poussaient très très loin hein, l'horreur de la croix. Et c'est dans ces conditions de détresse physique, morale et spirituelle de Jésus, bien que Simon va être associé à ses souffrances. Il en devient le témoin. Il entend le souffle court de Jésus. Il découvre derrière lui son dos ensanglanté, sa tunique qui le couvre mal, mais que son dos est ensanglanté. Il sent même l'odeur, peut-être du sang séché, de la transpiration. Nous, vous savez, souvent on agrémente, mais c'est vraiment l'horreur de la croix. Et il n'y a rien là aussi de joli dans cette œuvre. Et Simon Cyrène est associé aux souffrances. Peut-être que même de temps en temps, bien, il va poser sa main, soutenir Jésus parce que le lourd fardeau qui pèse sur lui l'oblige à fléchir les genoux. Et Simon en est le témoin, il est associé aux souffrances de Jésus. C'est un moment qui va marquer ce travailleur agricole, lui aussi bien sûr habitué à la fatigue. C'est à ce moment-là que lui aussi va être bouleversé parce qu'il est en train de vivre en suivant Jésus. Il est derrière Jésus. Mais il est associé aussi à ses souffrances. Il y a trois textes qui nous rappellent ceci dans le Colossiens 1:24. Je l'ai tout de suite, je vous le lis. Voilà ce qu'il dit dans Colossiens 1:24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Philippiens 3:10. Parce que Pierre parle également de ses souffrances. Philippiens 3:10, il est dit ceci. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et puis 1 Pierre 4:13, Pierre lui aussi parle de ses souffrances. On va bien comprendre ce que cela veut dire pour nous, porter sa croix, être associé aux souffrances de Christ. N'est pas question, bien sûr, ce matin, par nos souffrances, d'ajouter quoi que ce soit au salut, de mériter quelque part notre salut. C'est pas ce que dit Paul et Pierre ici, et on va comprendre ceci. 1 Pierre 4:13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait de mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'ils rendent gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il est bien entendu, je le répète, d'ajouter quoi que ce soit à notre salut, Christ a tout accompli, mais d'être associé aux souffrances que notre foi en Jésus va engendrer. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Peut-être que ce matin, bien, vous êtes vous aussi associé aux souffrances de Christ dans votre famille, dans votre entourage, dans le travail, là où vous habitez. C'est les insultes, c'est les moqueries, c'est la haine, c'est la condescendance. Ah oh, ben oui, mais vous savez, lui, le chrétien, les chrétiennes, il est complètement perché, hein, c'est même pas la peine de discuter avec lui. La justice. Que ce soit vis-à-vis de nous, mais il y a des choses dans notre société, dans notre monde qui nous révoltent parce qu'elles sont injustes. À cause justement de cette foi en Christ, on peut dire, mais Seigneur, ce n'est pas possible. La violence, la calomnie. Un autre texte nous dit, apprenez à vous défendre avec douceur et respect, afin que même s'il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. C'est pas toujours ce qui est dit dans notre bouche ou devant nous, hein. Ça peut circuler, etc. Tout ça, ce sont des souffrances qui sont associées à notre foi en Jésus-Christ. Mais porter sa croix, eh bien, c'est accepter d'être aussi associé à ces souffrances. Et puis, une autre pensée, c'est vivre au plus près de Jésus. Simon, on s'en rend compte, fait partie de ces quelques personnes qui vont vivre un moment fort dans la présence de Jésus. Il y en a beaucoup d'autres. On peut penser à un autre Simon, c'est la même racine, Siméon. Vous vous souvenez de Siméon? Hein, il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Et j'aime bien cette belle image. Les enfants un jour l'ont joué dans une pièce de Noël, hein, où on voit ce vénérable vieillard, on imagine avec cette belle barbe blanche, et puis là, il saisit Jésus qui est bébé, il le prend dans ses bras et il le bénit. Et là, dans ce moment d'intimité extraordinaire, il dit aussi, bien, désormais, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Quelle paix face à l'éternité. Il a serré, il a vu, il a béni Jésus le Sauveur. C'est extraordinaire, cette rencontre avec Siméon. Bartimée, hein, l'aveugle Zachée, une pauvre veuve, Pierre, Jacques, Jean et d'autres ont eu des moments d'intimité, des moments privilégiés avec Jésus. Pour Simon de Cyrène, rien, entre guillemets, ne le prédestinait à rencontrer Jésus dans un tel moment. On verra tout à l'heure, c'est un ouvrier agricole, je le répète, peut-être un journalier à l'époque, hein, c'était pas mensualisé, il n'y avait pas de CDI, etc., avec rupture conventionnelle à la fin, c'était peut-être, on arrivait sur une place et puis là, ben, on venait, on vous prenait pas, et la vie de cet homme doit être compliquée, des conditions de travail quand même difficiles, on se plaint un petit peu de la chaleur, hein, imaginez là-bas, donc, en Israël, quotidiennement, c'est pas des journées de 7 heures avec une pause de 3 heures pour l'apéritif, le déjeuner et la sieste, hein, c'était des journées de 10, 12 heures, 14 heures, et puis on travaillait, et rien ne le prédestine, bien sûr, à vivre un tel moment avec Jésus. Pourtant, c'est un des derniers hommes dont Jésus va voir le visage, face à face, tout près, de tout près. Et surtout, cet homme va lui apporter un certain soulagement. Un de ces rares moments où Jésus va être soulagé. Porter sa croix, ça nous parle également de proximité, de présence, d'intimité avec Jésus. D'intimité avec Jésus. Voilà comment Paul va dépeindre son intimité. Voilà comment Paul, en parlant de la croix, justement, va l'exprimer. Hein, dans Galates 2.20, vous connaissez l'expression, on a du mal des fois à la saisir, mais il dira, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y avait une telle osmose, une telle intimité que Paul pourra dire, eh bien voilà, j'ai été crucifié avec Christ, et il l'exprime par rapport à la croix de cette manière, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit moi. Dans Jean 15, versets 4 à 8, Jésus dit ceci, demeurez en moi, et puis je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup, beaucoup de fruits. Vous savez, quand le moment du grand départ approche, qu'est-ce qui demeure essentiel? Qu'est-ce qui demeure essentiel? Nos biens, notre compte en banque, en Suisse, dans les îles Caïmans ou ailleurs, je ne sais pas, les lingots d'or, à ce qui paraît, hein, si vous avez un lingot d'or, ça monte une... Les Legos aussi, j'ai entendu ça, investissez dans les Legos, surtout n'ouvrez pas les boîtes, hein, et dans quelques années, vous allez les revendre. Enfin, il y a des investissements, mais quand le jour du grand départ arrive, nos souvenirs, nos projets, nos idées, en général, il reste quelque chose qui est solide, ce sont nos relations. Dans nos relations, bien sûr, avec nos proches, notre famille, notre épouse, notre époux, les enfants, etc. Ils sont encore là. C'est ce qui est important, c'est le reste. Et puis, dans la relation des relations, ce qui est le plus important, ce qui demeure essentiel, c'est notre relation avec Jésus. Le jour du grand départ, même bien accompagné par notre famille, et je vous le souhaite, bien, la relation essentielle, parce que nos bien-aimés ne pourront nous accompagner que jusqu'à un certain stade. Mais Jésus, lui, fera le lien entre notre terre de misère et puis son ciel de gloire. Et le plus important, c'est qu'à ce moment-là, nous pourrons dire, oui, Seigneur, j'ai porté ma croix, j'ai soigné mon intimité avec toi, et finalement, tu demeures et tu restes mon plus grand trésor. Amen, pour ce passage dans l'éternité. Alors, la deuxième pensée, pourquoi porter sa croix? C'est là que le récit de Simon de Cyrène est très intéressant. Pourquoi Simon de Cyrène, revenant des champs, après une dure journée de labeur, s'est-il retrouvé porter la croix avec Jésus et quelques instants, ce qu'elle devienne sa propre croix? Pourquoi soudainement, sa vie va changer d'orientation, de direction? Pourquoi, à un moment donné, eh bien, son idée de rentrer à la maison, d'être, de pouvoir se relaxer, de retrouver sa famille, de manger un bon repas, de se laver, puis de dormir tout de suite, parce que demain, la journée va reprendre. Pourquoi cette réalité est-elle repoussée, est-elle décalée, est-elle annulée? Pourquoi? Parce qu'il se dit, ah, tiens, ben, c'est vrai, je vais aider, là, ce pauvre homme, je sais pas qui il est, etc. Oui, j'ai entendu parler, c'est un certain Jésus, alors je vais me proposer comme ça pour l'aider. Bon, c'est l'horreur de la croix. Car personne ne veut être associé à ce sacrifice. Il va se proposer volontairement. Non. Pourquoi Simon de Cyrène va-t-il se retrouver à porter sa croix? Bien, les textes nous le disent, hein. Deux textes nous disent ceci, les Romains l'ont forcé. Ils le forcèrent. Ils l'obligèrent. Luc dit carrément, ils s'emparèrent de Simon Cyrène. Je sais pas, il a dû se retrouver là, il pouvait pas passer, le chemin était barré, etc. Paf! Peut-être là aussi, alors certains disent que c'était un juif de la colonie de Cyrène, d'autres disent qu'il était d'origine africaine, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de sa couleur de peau, etc. Mais en tout cas, ils l'ont obligé, ils vont le réquisitionner. Il n'a pas le choix. Les soldats romains, donc voyant la faiblesse de Jésus, se disent, il n'arrivera jamais au bout, puis surtout, nous, on ne veut pas toucher cette croix. C'est une malédiction. Alors il faut quelqu'un. Et là, ben, c'est le premier venu, c'est celui qui sort peut-être du lot, je sais pas, mais ils vont le réquisitionner. Et Simon ne peut pas dire, ah non, moi je peux pas, moi j'ai une dure journée de travail, moi je rentre chez moi, hein, vous en prenez un autre. Il est réquisitionné, les soldats romains ont toute autorité, c'est une réquisition immédiate. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ce matin? Eh bien, porter sa croix, finalement, c'est... Je vais dire ça comme ça, c'est l'obligation de Dieu pour un véritable changement dans nos vies. C'est l'obligation de Dieu pour un véritable changement dans nos vies. Dieu n'a pas prévu une autre option. Dieu n'a pas prévu une autre orientation. Et c'est bien, en tout cas, dans l'avant de Dieu, une obligation. Bien sûr qu'on a le choix. Nous, on aurait le choix de dire « Non, je ne veux pas cette obligation ». Mais comme pour Simon, c'est l'obligation de Dieu pour un véritable changement de nos vies. Sans cela, notre bonne volonté, nos efforts, nos prières, même s'ils sont sincères, même si il y a une bonne volonté, ne pourront jamais produire un changement durable, véritable, profond et surtout éternel. C'est voué à l'échec. Simon va être obligé de porter cette croix. Et pour nous, porter sa croix, eh bien, c'est une obligation, c'est l'obligation de Dieu pour un véritable changement. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans être associé à ses souffrances, on ne peut rien faire. Sans être associé à son sacrifice, on ne peut rien faire. Sans être associé à sa présence, on ne peut rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Imaginez, je sais pas, si vous avez un bateau, j'ai appris dernièrement qu'il y avait un port à Mulhouse, extraordinaire.